France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans un univers coloré, psychédélique, parfois déroutant, un peu sombre mais souvent joyeux, la bande dessinée de Brecht Evans. Et tout cela en même temps et plus encore. L'auteur, illustrateur et dessinateur flamand Brecht Evans est inclassable et chacun de ses romans graphiques est une plongée dans un imaginaire débridé. Des dessins dans lesquels on peut se perdre pendant des heures, des détails partout, des histoires captivantes et des techniques passionnantes depuis la publication des Noceurs en 2009, l'artiste n'en finit pas de nous surprendre. Il est revenu en 2024 avec Le Roi Méduse, premier volet d'un triptyque explorant différentes techniques. Il est mis à l'honneur au musée Thomas-Henri de Cherbourg qui lui consacre une exposition, Le Repère de la Méduse, dans le cadre de la 12e Biennale du 9e art jusqu'au 16 novembre. Alors, prenez vos palmes, vos masques et vos tubas, on plonge! Bonjour Brecht Evans.
Bonjour.
Vous allez nous entraîner dans votre atelier que vous appelez le repère de la méduse. Et la méduse, c'est un animal que j'aime beaucoup et je ne suis pas la seule. La romancière et poétesse Cécile Coulon est aussi fascinée par les méduses que l'on retrouve beaucoup dans votre œuvre, que l'on voit aussi dans l'exposition à Cherbourg. On va écouter pour commencer la conversation Cécile Coulon en parler. C'était à propos du poème « Sur une plage » de Rosemonde Gérard le 9 mai dernier.
Les méduses sont des animaux, les animaux du mystère. Les animaux dont on a peur, mais qu'on aime regarder. On aime s'approcher, mais pas trop près. Qui changent de couleur. Qui a déjà vu des bandes méduses sur une plage sait qu'elles peuvent être mauves, bleues, vertes, et que sous leur carapace translucide, on voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. La méduse est un animal poétique par excellence, mais qui est difficile à raconter, difficile à décrire, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle brûle, parce qu'elle représente une forme de danger, mais un danger si beau et si venu d'un autre monde, qu'il est difficile de ne pas l'inclure parmi les créatures semi-vivantes, semi-mortes, comme écrit Rosemonde, du bestiaire poétique.
Voilà, un animal poétique par excellence, la méduse Brecht Evans. Qu'est-ce qui vous plaît dans les méduses qui reviennent très souvent sous vos crayons et sous vos pinceaux ?
En fait, oui, c'est super bien, comme elle dit, le dangereux et beau. Et comme ça, je vois un lien. En fait, il y a longtemps, il y a 10 ans environ, j'ai fait un livre qui s'appelle Panthère. Et c'était un autre animal dangereux, mais qu'on aime regarder. Et peut-être que là, je réagis vite fait, donc une théorie à 2 balles, donc il y a peut-être un lien avec ce qu'on aime. Ouais, c'est mes favoris aussi. C'est que j'aime écrire, il y a toujours une sorte danger qu'on aime regarder, quoi. Quelque chose de louche, mais qui nous fascine et nous hypnotise. Toutes mes histoires ont forcément un peu de ça, je suppose. En tout cas, surtout Panthère et le Roi Méduse ont ça.
On va revenir sur ces personnages fascinants et captivants. La méduse, c'est aussi, Cécile Coulon le disait, la couleur et la transparence. J'imagine que c'est intéressant pour quelqu'un qui peint, qui dessine, de jouer sur ces questions de couleur et de transparence.
Ouais, moi je fais souvent des dessins où je suis un peu associé avec des dessins où il y a des choses qui sont translucides, transparentes, où il y a des lumières dans le noir et tout ça, donc... Donc dessiner des méduses, c'est presque trop évident pour moi, quoi. Mais il y a plein de raisons d'aimer des méduses. Oui, fascination est meilleur mot que amour. J'aime beaucoup regarder des docu animaliers et je suppose que en raison est il y a des bêtes qui se mangent et tout ça, mais ça me calme complètement de regarder ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement loin de nos lits, comme on dit, je sais pas si on dit en français, mais on dit en flamand, quelque chose qui se passe loin de là où je dors. Ça nous concerne très peu, leurs problèmes qu'ils ont entre eux, les bêtes. C'est fascinant parce qu'on peut jamais se placer dans leur tête. Comme on discutait, on parlait un peu de méduses et poulpes et tout ça. On a fait un Google, on s'est rendu compte que oui, des poulpes ont un cerveau ou plusieurs.
Je crois 9 ou 3 cerveaux, et les méduses ont pas de cerveau, mais des neurones
voilà.
sous leur peau visqueuse.
Donc être un poulpe, on peut quasi s'imaginer encore.
Moi, j'aimerais
quand même
bien
3 cerveaux ou 8, c'est difficile. Mais une méduse, on a absolument zéro idée. C'est fait pour des situations complètement différentes de nous.
Il y a un côté hypnotique aussi, ça nous sort du réel.
Ouais, complètement. Il y a encore 20 autres raisons pour lesquelles c'est dans le titre de mon livre, donc j'en oublie toujours une quinzaine.
Ce sont déjà de très très bonnes raisons. Bret Stephens, votre dernier roman graphique, Le Roi Méduse, met en scène un petit garçon, Arthur, qui a 10 ans, qui est élevé par son père. Il a perdu sa mère, son père ne lui parle pas, ne sait pas parler avec son fils. Et puis finalement, c'est grâce au dessin que le petit garçon va rentrer en contact avec son père, il va attirer son œil, capturer son attention, et là rentrer dans un dialogue avec lui. Quel genre de petit garçon étiez-vous, Bret Stephens ? Est-ce que vous aussi, vous êtes un petit garçon qui est entré en dialogue avec le monde à travers le dessin ?
Non. Comme beaucoup d'enfants, j'ai dessiné beaucoup, et j'étais considéré bon dessinateur, et j'aimais beaucoup faire ça. Mais j'étais pas un enfant comme Arthur dans le livre, c'est-à-dire j'étais pas isolé, surtout pas isolé par mon père, et mon père me parlait beaucoup et bien. Aussi j'étais pas courageux et sportif comme Arthur dans le livre, qui est quand même éduqué par son père pour devenir une sorte de petit héros, et pas moi. L'ambiance chez moi, c'était quand même des peignoirs et des romans, quoi.
C'était plus enveloppant que l'ambiance de la vie d'Arthur.
Et très, très zen comparé à la vie d'Arthur.
Vous avez déclaré à Libération que vous étiez tellement plongé dans vos jeux quand vous étiez enfant qu'on pouvait parler de deep play, une expression de l'auteur de BD américaine, l'autrice de BD américaine Linda Barry. Et c'est, là je vous cite dans Libération, ce moment où l'enfant est tellement plongé dans le jeu qu'il se croit vraiment dedans. Ça me rappelle un peu ce que vous me disiez sur les documentaires animaliers juste avant, une façon de se couper du réel et d'être hypnotisé par quelque chose. Là, en votre cas, c'était le jeu.
Ouais, dans le cas de
l'enfance,
quasi tous les enfants, je pense, et pourquoi le concept me plaît, ou pourquoi cette chose de disparaître dans le jeu me plaît, parce que c'est une façon, une expérience que tous les gens ont eue avec quelque chose qui ressemble à écrire ou faire de l'art, je crois. Tous en jouant avec les copains petits, on était en train d'improviser sur place les règles du jeu, peut-être, tu vois, les personnages qu'on incarnait, et on était en train d'écrire, en gros, et de, en groupe, souvent, ou seul, souvent, on avait tendance à faire de la narration avec, souvent, je pense aussi, à deux ou à seul, à jouer avec des poupées, de raconter ce qui se passait. Ce qui est donc faire de l'écriture, et être dans un état qui ressemble un peu à écrire. Et même, il y a une façon intéressante en Flandre qu'on pouvait observer comment ça fonctionne. C'est tout le monde de ma génération, en tout cas, quand ils faisaient leur propre narration en jouant, prenaient des voix hollandais plutôt que flamands, parce que les films Disney étaient doublés par des Hollandais. Donc pour nous, la narration, ou les voix des princesses, les voix des héros, étaient des Hollandais. Donc on avait tendance à basculer dans un autre dialecte pour faire la narration pour nous-mêmes. Ce qui nous apprend quoi, je sais pas, que on est déjà en train aussi de se enfant d'être influencé par le fiction déjà existant, je pense, et les voix écrites qu'on a écoutées.
Et vous retrouvez cet état de concentration extrême et de jeu qui vous coupe du réel encore aujourd'hui quand vous faites vos romans graphiques, quand vous êtes plongé dans la peinture ou dans l'élaboration d'une histoire.
Ouais.
C'est cette part d'enfance qui revient.
Ouais, et je dirais même plus que maintenant, que depuis longtemps. Je crois que dans Roi Méduse, qui est en train de devenir une trilogie, un gros truc de peut-être 1000 pages en tout, que ça va être. Ça semble, ce livre demande beaucoup de un plus grand éventail de compétences, on va dire, et d'outils. Littéralement, genre des petits règles, des compas, des typex, des je ne sais pas quoi. et des connaissances et des recherches que mes BD avant. Et dans un sens, ça m'absorbe plus comme je pouvais être absorbé enfant, où je faisais pas que de la BD non plus. Tout ce que je faisais tout genre de trucs. Je construisais mes propres armes pour faire, si je voulais un certain genre de pistolet science-fiction, je me le faisais peut-être en carton. Rien d'atypique là non plus. Je faisais des cassettes avec des mauvaises reprises de chansons, mais bref.
Et vous chantiez sur les cassettes.
Oui, oui. Il y avait une production très divers, un empire culturel, pourrait-on dire, mais qui faisait tous partie, je suppose, de cette deep play. Bon, je fais un lien qui est pas utile, mais en tout cas, toutes ces choses étaient rendre un peu plus réel ce que j'avais dans ma tête, ce que les enfants entendent tout le temps. Une poupée sert à ça. C'est pour pas devoir s'imaginer ce petit personnage, c'est pour l'avoir dans ses mains. C'est un petit peu plus réel, et un petit peu plus comme ce qu'on a dans la tête, parce qu'on peut déjà le toucher. Donc si je veux cette flingue spatiale, et je me le fais en carton, j'ai fait quelque chose qui rend plus concret, plus vrai, le fantaisie désiré que j'ai dans ma tête. Et je suppose que toute cette chose de faire de la BD, ou que des autres choses, gens font des films, des romans, et je ne sais pas quoi d'autre, ressemble beaucoup à ça quand on le fait enfant, là, cette flingue ou cette poupée.
Rendre réel l'imaginaire, en fait. Rendre concret, pouvoir l'avoir sous ses doigts.
Ouais. Ou limite, genre faire des statues de Jésus-Christ ou la Sainte Marie. Que certains genres de chrétiens n'aiment pas ça, de faire des images des autres genres de chrétiens. Ils trouvent ça super et prient pour, parce qu'ils veulent leur statue de Marie pour prier, pour que Marie existe un tout petit peu plus. Ils en ont besoin.
Et vous faites ça. Peut-être pas des statues de Marie, mais en tout cas, vous apportez concrètement des images devenues papier et devenues concrètes dans nos imaginaires. Vous avez étudié à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Gand, et puis vous êtes allé vers la sérigraphie. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
J'ai fait école d'art, j'ai appris un peu à bien manier des pinceaux et faire ça en faisant de la BD aussi, avoir un style un peu plus expressif, un peu plus peinture moderne. Disons, 8 ans plus tard, je me suis trouvé à faire de la lithographie dans l'atelier de Michael Woolworth. Lui, il aimerait beaucoup, je pense, que je distingue entre lithographie et sérigraphie.
D'accord.
Voilà, parce que tout le monde a son équipe. Lithographie est évidemment beaucoup plus noble que l'art de la sérigraphie. On a eu des débats rigolos là-dessus. Là. Pourquoi j'étais envoyé là pour une raison commerciale, pour une commande, quelque chose que j'étais censé aller exécuter chez lui. C'est juste que c'était travailler avec lui, c'était un peu coup de foudre entre nous, et coup de foudre avec ce technique. Lithographie en particulier, j'avais jamais fait. J'avais fait un peu de sérigraphie à l'école, un peu de points sèches, des choses comme ça. Mais j'ai tout de suite trouvé des autres excuses pour aller travailler dans son atelier. On s'est inventé des autres projets. Et très peu après, j'ai commencé à travailler sur Le Roi Méduse. On avait déjà fait quelques images ensemble qui ont servi de planche dans Les Rigoles, ma BD d'avant. Mais pour Roi Méduse, c'est allé dans une autre vitesse. Et il y a plein de planches dans cette BD qui ont été faites, construites, dessinées en lithographie.
Et on en reparlera de cette technique un peu plus tard dans l'émission. À 24 ans, en 2010, vous avez publié votre premier roman graphique, c'est Les Noceurs. Il met en scène toute une série de personnages, des amis. Il est en trois parties. Au début du roman graphique, c'est un garçon, Gert, qui veut inviter plein d'amis. Et ils viennent, mais en fait, celui qu'ils veulent voir, c'est Robbie. C'est la star de la soirée, c'est le copain que tout le monde veut avoir, le garçon que tout le monde veut séduire. Et un personnage charismatique qui fascine, qu'on rencontrera un peu plus tard dans le roman, puisqu'il vient pas à cette soirée. Et dans Le Roi Méduse, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi ce personnage de père qui est à la fois charismatique, mais aussi un peu inquiétant. C'est un ancien chirurgien qui parfois s'opère lui-même, qui crée des petites façons d'améliorer le corps humain, parce qu'il est engagé, croit-il, dans un combat contre les forces du mal, et il veut entraîner son fils Arthur à se battre contre les forces du mal. Donc il est assez complotiste, ce père. En même temps, il nous fait peur, il nous intéresse aussi, il nous fascine, il nous touche. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces figures charismatiques qui attirent tout le monde, qui attirent les regards, qui peuvent avoir du pouvoir sur une personne ou plusieurs personnes, Brecht Evans?
Le dangereux mais beau à regarder,
comme les méduses
et les panthères. Je crois que j'aime écrire des personnages qui sont peut-être dans une certaine fixette dans leur tête, mais surtout je crois que j'ai remarqué un peu, le tome 1 était quasi fini déjà, que j'ai remarqué que il y avait le thème dedans qui était émotionnellement le plus fort, le plus important, c'était le sorte de simultanéité d'amour et danger. Amour et faire du bien, faire du mal à quelqu'un, ou que il y a beaucoup de tendresse entre le père et le garçon. Et en même temps, il finit par opérer sur son fils de façon clandestine et tout. Il y a un vrai danger.
Il le met en danger, hein. Il le fait sauter du haut d'un promontoire dans la mer, glacé en plein hiver. Il attire l'intérêt des services sociaux. Enfin, voilà, il y a une tension entre ce petit duo, ce petit cocon qu'ils ont tous les deux, où ils sont en osmose et où ils grandissent ensemble d'une certaine façon, et le monde extérieur qui pose sur ce duo-là, et à juste titre aussi, puisqu'on peut penser que ce petit garçon est peut-être pas totalement en sécurité, pose un regard très inquiet, en fait. Il y a une opposition, une tension dramatique.
Oui, voilà. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on veut continuer de suivre leur histoire. Pour quelque chose de beau à écrire et dessiner, où tu peux toujours être aller chercher sur ce frontière entre... glauque et génial, ce qui est très fort dans Panthère aussi. Et je n'avais pas d'exemple de ça dans la vraie vie. Je suis allé parler, à un moment, j'avais lu une critique de livre sur un livre de Maud Julien, Derrière la grille. Elle est psychiatre, c'est un livre sur sa jeunesse. Elle a été éduquée pour devenir une sorte de super-héroïne par un père qui n'allait pas du tout. C'était une jeunesse très quand même largement très glauque, quoi, très dure, avec des choses quasi de torture par un père quand même, avec des fixettes ultra dangereuses.
Donc cette femme a vécu ça, elle a été élevée par un père.
Oui, et je suis allé la parler, entre autres pour avoir un peu sa vision sur ce que j'étais en train d'écrire, mais quasi aussi un peu pour avoir la permission d'écrire quelque chose d'aussi tendre et presque positif, souvent, de ce que j'étais en train de faire. Je voulais quand même avoir un peu une idée si elle ne trouvait pas que je faisais du propagande pour ce qui aurait été son cauchemar et son trauma à elle. Elle n'en avait rien à foutre, elle trouvait ça très bien, vas-y, fais ton livre fictionnel. Mais j'ai été contacté l'année passée par une jeune femme, une fille qui a lu Roi Méduse et qui a vécu ça par contre, qui a été isolée par son père dans une vue du monde complotiste où du coup il y avait ces deux choses, il y avait ce plaisir et excitation de nous contre le monde, et ces missions et ces dangers d'aventure ensemble, et aussi les choses très très dures et traumatiques. Les deux existaient quand même simultanément dans son histoire. Je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et elle a un tatouage de méduse avec son père. Ouais,
ouais. Depuis l'époque. Qui symbolise son père.
C'était une sorte de symbole de lien pour eux. Donc pour ceux qui aiment les synchronicités, moi je ne perds pas de sommeil pour ces choses-là. On s'en fout, mais pour qui aime ça, il y a ça.
Il y a quelque chose d'intéressant.
Ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens de ils ont mis une méduse, c'est que toi, vous et moi, nous sommes pas les seuls à être un peu fascinés par cette bête. Et donc, avec un livre comme Le Roi Méduse, ce que je fais souvent, je suis pas en train de chercher à passer un message ou donner mon idée sur un certain thème, mais je crée des résonances avec ce que j'écris, avec ce que je dessine, avec ce que je répète comme dessin et mots. Les choses commencent à résonner avec beaucoup de thèmes divers et faire quelque chose de puissant et fertile, je crois.
En parlant d'écriture, on va écouter le dessinateur Moebius parler de son rapport à l'écriture.
créer une image à partir d'un texte, c'est choisir entre mille solutions et choisir celle qui va apparaître, qui va prendre sa forme et qui va s'imposer sous le regard du lecteur. Donc, quelque part, ce lecteur, il est là, présent, d'une façon virtuelle, au moment du dessin. Mais on raconte partout qu'on a créé un lecteur, mais en fait, c'est soi-même. Hein, on se dédouble d'une façon légère, parce que ce qui est curieux quand on dessine, c'est comme pour un écrivain. Un écrivain, est-ce qu'il écrit ou est-ce qu'il lit ? Vous voyez, quand il écrit un livre, est-ce qu'il se contente ? Au fond, il n'est que le premier lecteur. Et il assiste au lieu de lire à la vitesse de lecture, il lit à la vitesse de l'écriture. L'écriture est un acte largement inconscient. On est presque victime de sa propre écriture.
On est presque victime de sa propre écriture. Comment ça s'est passé pour vous, l'écriture de ce roman graphique, des autres romans graphiques aussi, puisque je rappelle que vous avez écrit Les Amateurs, vous avez écrit Panthère, Idulfania, vous avez quand même Les Rigoles aussi dont vous avez parlé, enfin vous avez beaucoup publié. Est-ce que vous considérez que votre écriture vous dépasse, vous entraîne, ou les images que vous avez en tête vous entraînent au-delà de l'histoire que vous aviez imaginée à l'origine ?
Oui, tout à fait. Parce qu'on a déjà écrit, ça commence à inviter des autres images, des autres phrases et trucs. Et ça commence à les réveiller dans l'écrivain. Donc oui, il y a quelque chose comme une promenade où on fait un virage et on voit encore des nouvelles choses et on veut aller voir ça. Donc on est entraîné par son intérêt. Et on se laisse entraîner si on a droit à une certaine échéance. Moi, je me permets des années pour travailler sur un bande dessinée, par exemple.
Oui, et vous avez...
La réalité économique est que je vis d'autre chose que de la vente de mes livres, du coup.
Vous vivez de quoi ?
Des commandes, par exemple, d'illustrations je peins sur papier, donc ces choses peuvent se vendre en galerie et tout ça. Donc je peux me permettre d'attendre des années avant de sortir un bouquin et du coup je peux prendre encore des virages et ouvrir encore des portes et checker encore une fois si une scène est vraiment importante ou beau, intéressant.
Vous avez un storyboard quand vous travaillez, vous dessinez quelque chose à l'avance ?
De plus en plus. En fait, pour le tome 2, je travaille ce storyboard avec une intensité que j'ai jamais fait avant, beaucoup plus développée, tellement que j'ai encore énormément de planches à dessiner pour le tome 2, mais ils existent déjà en couleur et tout, quasi. Et du coup, je me demande ce qu'il veut dire par victime de son écriture. Je suppose que c'est ce qu'il dit sur on lit mais à la vitesse d'écriture, ce qui est évidemment beaucoup plus lent que la vitesse de lecture. Donc, il veut dire, je suppose juste que on passe des années, quoi. On est entraîné dans un projet qui dure des années.
Et puis peut-être qu'il veut dire aussi qu'on est surpris par son propre, par la propre histoire, qu'on est à la fois en train d'écrire, mais aussi en train de lire, et que cette histoire arrive avec des détails, des événements qui viennent peut-être entrer en collision avec ce qu'on avait en tête à l'origine.
Oui, en tout cas, tout le temps, un exemple très concret, ou peut-être le plus important en écrivant fiction, peut-être avec des personnages et tout, c'est est-ce que ces personnages, quand tu les revois et relis, est-ce qu'ils ont l'air de caricature ? Pourquoi ils sont là ? Je peux relire une scène et me rendre compte, mais ce personnage est là parce que je trouve ça un drôle de style de connard. Et je sais que mon lecteur, tous ces gens du 20e arrondissement à Paris, je sais pas qui, tous ces profs de langue, ils vont être d'accord, ils vont trouver ça le même genre de drôle de connard que moi. Et qu'est-ce qu'on est en train de se raconter du coup, qu'est-ce que je leur donne en leur montrant cette caricature ou cette stéréotype? Pas beaucoup de nutriments, on va dire, mental. C'est pas très intéressant. Donc c'est des moments où il faut penser, est-ce que c'est vraiment important cette scène? Est-ce qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant ou beau?
Vous voulez surprendre le lecteur et la lectrice. Vous ne voulez pas qu'il soit dans une zone de confort.
C'est quand on voit ça qu'on est confronté à ses propres opinions, en fait. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à penser ou dire à le sujet de ce genre de personne avec ce métier ou ce style de s'habiller et tout? Est-ce que j'ai pas un peu plus de des pensées, des conclusions ou des observations un peu plus intéressantes et profondes sur tout ça que ce qu'on voit sur la page là? Donc écrire de la fiction là me force quand même tout le temps à me découvrir des opinions un peu plus renseignées sur des choses, juste pour rendre cette sorte monde fictionnel, cette fantaisie plus convaincant pour moi, et donc pour rendre ma fantaisie plus réelle, faut aussi qu'il soit un peu convaincant quand je le...
En fait, c'est vous que vous voulez convaincre. C'est vous-même. Vous n'êtes pas forcément dans la tête du lecteur ou de la lectrice. Vous êtes Brecht Evans face à lui-même.
Quand même dans la tête du lecteur. Et, comme dit Moebius, là, il est là parce que si je dessinais vraiment que pour moi-même, je pourrais dessiner un point et savoir que ça, c'est un personnage, mais très loin. Mais je check quand même que le lecteur comprend ce que je suis en train de dessiner. Donc, il faut quand même voir le personnage et le reconnaître qu'il est bleu, qu'il a deux bras, qu'il a une grosse tête et tout. Si je dessinais que pour moi, dans une sorte de jeu tout à fait privé, solo, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais ça ne ressemblerait pas du tout à ce que
moi, j'adorerais voir.
Ouais.
Oui.
Je crois que ça existe peut-être. Je me demande si... Bon, peu importe. Non, je sais pas si ça existe. Si les dessinateurs font vraiment ça, doit en avoir peut-être. Mais du coup, je les ai pas reconnus comme des dessinateurs narratifs. Mais je pense peut-être à Fellini qui notait ses rêves. Je me demande s'il faisait ça avec des croquis et du texte.
Vous notez vos rêves, vous?
Non, j'ai la flemme quand je me lève de les noter. Donc, j'ai la chance c'est un peu long d'entendre écouter les rêves de quelqu'un d'autre.
Là, on tombe dans la psychanalyse.
Logiquement, c'est un peu long parce que c'est très difficile de raconter ce qui est intéressant dans le rêve. Du coup, on finit par résumer tout de façon banale et parler de j'étais pas préparé pour mon examen, pas préparé pour mon test. Oui, tandis que les vraies choses intéressantes dans tout ça sont des choses qu'on n'arrive juste pas à mettre en mots.
Donc la peinture permet finalement de mettre en image, plutôt que de mettre en mots, peut-être certaines dimensions oniriques ou certaines angoisses ou certains stress.
Ça permet beaucoup de choses très intéressantes que le texte tout seul ne permettrait pas, ça c'est sûr. Après, raconter des rêves, c'est encore tout autre chose. C'est un défi en soi. Mais oui, il y a une sorte similarité. Le dessin permet certaines choses que le texte ne permet pas. Par exemple, une innocence de l'auteur. Genre, c'est pas la bonne façon de dire ça, mais en dessin, tu peux faire des choses avec une mine de rien que tu ne peux pas avec une mine de rien en écriture. Je peux dessiner des choses où le lecteur ne sait pas nécessairement si c'était fait exprès ou pas.
C'est l'heureux accident.
Ouais, non, ça c'est les choses qui sont vraiment pas faites exprès. Mais je peux mettre des choses exprès qui n'ont pas l'air nécessairement mis exprès.
Merci Brecht Evans d'avoir été avec moi pour cette première partie d'émission. On va se retrouver dans la deuxième partie des midis pour poursuivre la conversation sur vos techniques. On se quitte sur Medusa de The Suite, un morceau de 1974.
Midi 45 sur France Culture, la suite avec vous.
Merci Lou Bourdi, et je suis toujours en compagnie de l'auteur, illustrateur et dessinateur flamand Brecht Evans, exposé dans le cadre de la 12e Biennale du 9e art de Cherbourg au musée Thomas-Henry jusqu'au 16 novembre 2025. L'exposition s'appelle « Le repère de la méduse » et votre exposition de lithographie sera montrée au centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière en Belgique jusqu'au 30 décembre cette année, Brecht Evans. On va parler justement de lithographie, la technique que vous avez notamment employée pour réaliser certaines planches du roi Méduse. Vous avez appris la technique de la lithographie et de l'estampe auprès de Michael Woolworth, qui tient un atelier dans le quartier de la Bastille à Paris. Michael Woolworth a eu un professeur, le lithographe Fernand Mourlot. On l'écoute dans cette archive datant de 1975.
La lithographie, c'est un métier extrêmement simple. Quand vous faites de l'eau forte ou de la pointe sèche, c'est un métier assez compliqué. Il faut faire des bains d'acide, il faut attendre, il faut revenir. Vous n'êtes pas lithographe, vous ne savez peut-être pas dessiner, mais si je vous donne une pierre et des crayons, ben vous feriez une lithographie. Mais vous ne feriez pas une eau forte. L'artiste fait sa litho. C'est fait avec un crayon gras, n'est-ce pas, sur une pierre qui est absolument vierge. Et on prépare avec un acide ce dessin. L'acide grave la partie qui n'est pas dessinée, parce qu'elle est dessinée avec un crayon gras. Alors forcément, l'acide n'attaque pas. On attend un petit peu, et puis, en levant le crayon, on le remplace par de l'encre, l'encre imprimée, et on fait une pression sur la pierre, et on a une épreuve. C'est immédiat. Alors vous comprenez, le bonhomme qui vient de faire sa litho, il est ravi de voir qu'on lui tire une épreuve, et puis il dit, un chien, c'est simple, qu'est-ce que je peux faire? Alors le v'là qui gratouille, le v'là qui efface, etc. C'est très simple. Vous faites vous pensez que vous allez faire une gravure en quatre couleurs. Vous dites, je vais mettre un noir, je vais mettre un jaune, je vais mettre un bleu, je vais mettre un rouge. Vous faites une plaque pour chaque couleur. Et on imprime avec une encre que vous avez choisie. Je jouerai ce rouge-là. Si le rouge ne vous satisfait pas tout à fait, on va mettre un peu de blanc dedans, ou on va le descendre, mettre un peu de jaune. Et l'artiste est là qui regarde, et c'est lui qui commande la manœuvre.
Alors, on est à l'endroit où se rencontrent l'art et l'artisanat avec la lithographie. Fernand Mourlot, il dit que c'est extrêmement simple, et puis il dit aussi que c'est extrêmement compliqué. Brecht Evans, c'est extrêmement simple ou c'est extrêmement compliqué, la lithographie?
Je partage la complexité. Donc, un des grands plaisirs d'être chez Woolworth, là, dans l'atelier, c'est que eux, ils font la deuxième partie du boulot. Moi, je leur donne de quoi faire les trucs qui sont imprimés, de quoi faire les plaques, les choses qui sont que eux ils mettent sur la presse, que eux ils impriment, et après en effet ils viennent checker avec moi si les couleurs sont les bonnes, tout ça. Mais donc oui, c'est complexe, c'est quelque chose que je ferais pas si c'était à moi aussi de m'occuper de cette partie-là, de imprimer tout ça. Donc le plaisir, c'est que ce soit collaboratif.
Donc comment ça se passe? Vous commencez, vous faites les dessins, vous décidez des couleurs, vous avez une vision. Et vous avez une équipe derrière qui s'empare de cette vision, mais vous dessinez d'abord, et ensuite eux font les plaques et les impriment.
Oui. Donc comme toujours, quand je fais un dessin, aussi quand c'est moi tout seul sur papier dans mon atelier, c'est toujours art et artisanat. Là. Ça, en soi, il n'y a pas de différence particulière, sauf que lithographie, ils utilisent des grandes machines, des grandes machines qui tournent des roues et des manivelles. Tu vois, c'est technologie 19e siècle qu'ils utilisent la plupart du temps. Donc moi, j'ai fait ça avec des outils plus petits quand je suis tout seul. Concevoir une image, le parti de dessin que moi je fais, je suis obligé de le faire très différemment, dans un ordre très différent que quand je dessine ou je peins direct sur papier. Et peut-être que je pourrais vous parler de toutes les spécificités de gravure, estampe, lithographie, de qu'est-ce qui est si beau dedans, les textures d'une gravure en bois ou les possibilités de dégrader avec les rouleaux qu'ils peuvent exécuter. Bref, tout genre de choses, mais peut-être pour un dessinateur, pourquoi l'intérêt de base, c'est que ça m'oblige à faire les choses par un autre, ça m'oblige de prêter un autre chemin. Pour donner un exemple de ça, un exemple hypothétique, Si je veux faire une image, je peux choisir, j'ai une certaine image en tête, une vague idée, et je peux le faire sur une feuille blanche, mais je pourrais aussi le faire sur une feuille noire, et peindre là-dessus, et tout ce qui est blanc ou clair, je serais obligé de le peindre dessus. Je peux arriver au même résultat, quasi, mais il y a forte chance qu'il y aura beaucoup plus de noir dans l'image que j'ai fait sur la feuille noire. On prend toujours certains raccourcis, on aura toujours certains réflexes à cause du matériel qu'on est en train d'utiliser qui feront que le résultat est différent de ce qu'on aurait fait sinon. Donc en diversifiant tes méthodes, tu découvres tout le temps de nouvelles façons de faire. Les images que je fais sont beaucoup plus diverses grâce à faire aussi de la lithographie à côté de peinture. Bientôt, je pense que je vais me pencher un petit peu sur collage, peut-être des choses comme ça. Je sens ça venir à l'horizon. Et ça va faire que les images soient plus diverses. Une fois que je comprends qu'est-ce qui apporte une certaine technique, qu'est-ce que ça a fait, je peux commencer à faire exprès. Genre, ah, ça, c'est une image qui a besoin d'une gravure en bois. Ça, c'est une image qui a besoin de ça et ça. Et pour le lecteur, ça va lui réveiller les yeux. Parce que, comme tout le monde qui a une belle vue depuis sa fenêtre, sait que quand on voit quelque chose toute la journée, ça devient un peu invisible. J'ai une belle vue de Paris depuis ma fenêtre, mais il y a des journées où je ne me rends même pas compte que j'ai ça. Tout ce qu'on voit tout le temps devient un peu invisible, et c'est comme ça avec un dessin ou une BD de 48 ou de 200 pages. Si tout est dessiné de la même façon, l'œil s'endort un petit peu. Il y a certaines choses qui deviennent un peu invisibles, et certains détails que si on les dessinerait très différemment, deviendrait soudainement beaucoup plus impactant et presque réel et parlant pour le lecteur.
C'est la surprise qui vous intéresse. Et puis il y a aussi l'ambiance de cet atelier. C'est une ambiance qu'on peut retrouver dans l'exposition à Cherbourg, Brecht Evans, puisque la deuxième salle de l'exposition nous plonge dans un atelier avec une presse. Et il y a un côté presque steampunk, en fait, presque rétro-futuriste dans ces gros outils, dans cet imaginaire aussi, et ces techniques-là. Est-ce que c'est ça qui vous plaît aussi, Brecht Evans? Est-ce que ça parle à votre fantaisie, vous disiez tout à l'heure, ma fantaisie.
C'est vrai que donc il y a des machines de assez. Bah, vu qu'il y a quand même des machines des années 50 aussi, des trucs un peu avec un peu d'électricité ou en tout cas une lampe qui doit être allumée et puis des choses 19e siècle comme ça, il y a quelque chose de steampunk parce qu'il y a plusieurs générations de technologies qui sont mélangées. Mais c'est pas pour satisfaire une sorte de truc fantasque que c'est si chouette d'être là, c'est que c'est très manuel, il y a pas d'écran en vue.
Vous aimez pas les écrans?
J'en utilise, mais c'est clair que le moins possible, ça fait du bien, passer une journée sans en voir.
Vous préférez utiliser une presse des années 50 que l'intelligence artificielle?
J'ai passé une après-midi avec de l'intelligence artificielle pour voir comment, si ça peut m'aider à faire des images, mais l'expérience n'était pas conclusive. J'avais l'impression que ce que ça savait faire était rendre un truc beau plus moche au lieu de lui donner quelque chose de moche et le rendre beau. Mais bah, comme chaque outil, un après-midi suffit pas nécessairement pour le maîtriser. Mais je fais des choses, par exemple le storyboarding. Je suis tout le temps en train de bosser avec du Tippex, avec des couteaux, avec du bâton de colle. Souvent pour faire des choses qui en théorie seraient peut-être plus simples en Photoshop, mais qui me tueraient, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont aussi faciles manuellement, voire plus faciles, qu'ils sont à faire sur ordi. Mais si je me mets devant un ordi, je vais être sur l'ordi pour tout faire. Et ça va être aussi assez triste.
Ça fait deux fois que vous me parlez de Tippex. Et ouais. Ça m'étonne parce que pour moi, le Tippex, c'était ce que j'utilisais au collège pour corriger mes fautes sur mes copies. Vous vous servez de ça aussi, Brecht Evans, pour vos romans?
En vrai, oui. C'est une erreur d'en parler. C'est parce que je suis tellement sur le storyboarding ces temps-ci que le Tippex a un tellement grand rôle dans ma vie que Office Depot est devenu mon magasin à jouets. Parfois, je me donne comme un cadeau à moi-même. un moment au Office Depot pour aller voir, regarder les diverses étiquettes ou les divers stylos qui se sont... Bref.
C'est la joie d'aller fouiller dans le magasin de jouets des grands enfants que
parce que dernièrement, je travaille beaucoup sur des croquis que je retravaille, Storyboard, c'est ça. Non, c'est des croquis pour ce qui peut devenir des vraies planches qui seront après publiées dans la BD. Donc, je peux travailler en déplacement, je peux être dans un café avec ma trousse de bureautique et de feutres et des choses et travailler sur ma BD, en gros, quand même.
Ouais. Avec le Tipex, pour quand on a des remords ou des regrets sur une idée
Ouais, qu'on a tout le temps. Donc ça, c'est mon delete. Hein. Ça, c'est mon supprimé, c'est avec ça.
Vous avez écrit dans le catalogue de l'exposition « L'estampe suit un rythme saccadé. On est plus en train de faire de l'autostop que de la randonnée. » J'ai beaucoup aimé cette image. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que dessinateur, de vivre à ce rythme et de vivre aussi en équipe, puisqu'il y a des moments où vous êtes dans un café avec votre Tipex et votre carnet, et vous êtes à votre rythme. Et puis, il y a d'autres moments où vous êtes dans le rythme de l'atelier et où tout change. Comment ça se passe, Brecht Evans?
Oui, en fait, c'est tout à fait un des grandes raisons, grand plaisir pour aller faire l'éthographie, c'est de travailler en équipe, ce qui... enfin, être avec des gens, déjeuner tous ensemble à midi, faire des blagues... ouais, c'est magnifique là-bas. Et aussi avoir des retours tout de suite sur ce que je suis en train de faire, peut-être. Hein.
Vous avez besoin de cette
émulation ? Non,
cette
mais parfois,
émulation.
C'est bien. Genre, j'ai besoin 10% du temps. Tu vois, c'est bien de varier.
10% du temps, 90% du temps, c'est de la solitude.
Ouais. Dans le travail, typiquement, que je travaille complètement seul, oui.
Vous êtes déjà en train de travailler sur la suite du Roi Méduse, ou vous avez déjà peut-être terminé ce fameux tome 2 dont vous nous avez parlé tout à l'heure?
Je passe beaucoup plus de temps dans ce storyboard que prévu. Où, en fait, à la sortie du tome 1, je croyais avoir fait beaucoup, avoir très avancé sur la suite de l'histoire, que je croyais être une seule tome, pas encore... que ça serait une trilogie, mais je me suis repenché sur la chose, j'ai trouvé beaucoup à faire, à refaire, et je suis sur une sorte de truc d'écriture et très intensif depuis, et je suppose qu'avec cette magnifique préparation très détaillée que je suis en train de faire maintenant, que forcément peindre toutes ces planches en définitif sera beaucoup plus rapide, mais si c'est pas le cas, ça va durer encore un petit peu. Ce tome 2 avant que ça sorte.
Eh bien, on vous écoute on vous attend avec grande impatience. Vous allez nous emmener vers l'adolescence d'Arthur ?
Je dis rien.
Vous dites rien, d'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup. On se quitte en écoutant de nouveau Médusa, mais plus attentivement de The Suite, donc 1974. Et puis, merci beaucoup, Brecht Evans, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer votre univers graphique. Je rappelle qu'on peut voir l'exposition Le repère de la Méduse à Cherbourg, au musée Thomas-Henry, jusqu'au 16 novembre. Et puis, jusqu'au 30 décembre, au centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière, en Belgique. Et on peut lire tous vos ouvrages. Et moi, je les recommande. Le dernier, c'est Le Roi Méduse aux éditions Actes Sud BD.